Hey, football fans, picture this. You bet on your favorite player to score the first touchdown in the game, but his teammate scores instead. If this happens, BetMGM wants to give you a second chance at the end zone. With BetMGM's second chance promotion, you'll get your stake back if your first touchdown scores second instead. That's right. Bet on any pro football player to score the first touchdown of the game. If you're right, you win. If your player scores second, you get your stake back in cash. With BetMGM's second chance offer, you have a chance to keep the fun going after the first player crosses the goal line. Try a first TD score wager with confidence today. BetMGM, make it legendary. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. This specific promotional offer is not available in Mississippi, Pennsylvania, Puerto Rico, or Ontario. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY 467-369 for New York. 1-800-NEXT-STEP for Arizona. 1-800-327-5050 for Massachusetts. 1-800-BETS-ALL for Iowa. 1-800-981-0023 for Puerto Rico. Existing customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards paid back and unrestricted withdrawable funds. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonjour, Jennifer. Comment ça va?
Ça va toi?
Ça va bien, merci. Ça va bien.
Mm-hmm.
On va amener El Petito à faire du planche à neige.
Pour la première fois demain.
Yes.
Ça va être très agréable, peut-être catastrophique, mais...
That's it. Je suis prête à tout.
On est trois adultes. On va être trois adultes. On va gérer. Gang, la résolution de Côté sombre pour l'année, c'est de améliorer nos réseaux sociaux, notamment notre Instagram. Donc maintenant, nous allons mettre des vidéos et des photos des cas. Donc on vous invite à aller voir là, après un épisode les photos si vous êtes curieux. Puis mon but, là, ce serait que la page Instagram atteigne le 10K. Parce que quand tu vois le cas, ça fait cool. Puis j'ai envie que mon Instagram soit cool.
Avec un cas.
Tu sais, 10K, ce serait nice.
K-O-O-L.
On aurait l'air d'un vrai podcast si on avait 10K de followers sur Instagram.
10 000 likes!
Ouais! Okay. Mais tu sais, c'est ça, j'étais comme, mais c'est sûr que notre Instagram, il manquait d'amour, puis là, on lui en donne de l'amour.
Okay? Fait que,
donnez-nous-en aussi, s'il vous plaît.
Non,
vous nous en donnez tellement déjà. Je vous demande tout le temps plein d'affaires. C'est que je suis tannante, mais...
C'est relié à la prochaine sujet, parce qu'on a un méga shout-out à faire.
Ah!
Pardon? Mega shout-out alert.
C'est moi qui le fais?
Oui, s'il vous plaît.
Ah, shout-out à Azael qui a fait découvrir notre podcast à son cousin Alex pendant qu'il faisait du désherbage. Puis Alex est rendu un gros fan. Donc, merci tellement, Azael, d'avoir fait découvrir notre podcast. C'est comme ça qu'on grandit parce que vous nous faites de la pub aussi. C'est pas juste avec Instagram là, puis les discos. Là.
Non. C'est ça. So, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a plusieurs sombres, whatever your pronouns are, in the sombre universe, qui ont partagé notre podcast avec des proches, you know, des membres de leur famille, un frère, un soeur, des amis, whatever, des collègues à travail. Puis ça, c'est magique. Magique de nous aider à propulser notre carrière de podcaster.
Yeah,
c'est
girl.
Malade. So, merci beaucoup.
Merci
shout out Azael. And shout out à tout le monde.
Shout out Alex.
Shout out Alex. Shout out à tout le monde qui partage notre pod. Yo, hell yeah.
T'es-tu prêt, toi?
No!
Moi, je suis plus que prête. Alors, prêt, pas prêt, j'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2009 à Malibu, en Californie.
Oh, Malibu. Très luxueux.
Malibu est située à l'ouest de Los Angeles, le long de la mythique Pacific Coast Highway, PCH pour les locals.
C'est nice, ça. Pacific Coast, oh, c'est nice.
Puis ça s'étire sur environ 34 km de côte entre l'océan Pacifique et les montagnes de Santa Monica.
Oh, c'est beau.
Oui, Malibu, c'est chic, c'est relax. Puis il y a beaucoup de maisons qui sont spectaculaires.
Well, un petit peu moins maintenant après les California wildfires, parce que Malibu était démoli par ça. Là.
Ouais. Il y a des gens qui ont bien de l'argent aussi, là, qui l'ont reconstruit, puis ont des assurances aussi, j'imagine.
Vive les assurances.
D'ailleurs, j'allais dire justement que plusieurs célébrités ont des maisons à Malibu, dont Paris Hilton, dont la maison a brûlé l'année passée, tu viens de nommer, Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Gwyneth Paltrow, Jason Momoa, Ashton Kutcher, puis Mila Kunis, John Legend,
Mega vedettes,
Jessica Alba, Snoop Dogg, puis j'en passe. Ça veut pas dire qu'ils habitent là à temps plein, parce qu'ils ont tout le temps plusieurs maisons, mais ils ont une maison à Malibu. La population à Malibu est d'environ 10 000 habitants, puis l'an passé, il y a eu un meurtre, 10 viols, 13 vols et 36 voies de fait. Maitrice Richardson est née le 30 avril 1985 à Los Angeles, en Californie.
Richardson.
Ses parents, Latisse et Michael, l'ont eu alors qu'ils étaient encore adolescents.
Wow.
Donc, Maitrice, sa mère s'appelle Latisse, puis Latisse, elle habitait chez sa grand-mère qui s'appelait Mildred.
Shout out Mildred.
Avec qui elle était très proche. Ainsi, elle pouvait continuer d'aller à l'école et terminer son secondaire parce que Mildred prenait soin de Maitrice. OK, donc la mère là, de Maitrice, elle l'a eu quand elle était très jeune. Fait que elle habitait avec sa grand-mère. Fait que là, pour qu'elle continue son secondaire, la grand-mère prenait soin de la nouvelle petite.
Shout out à toutes les grand-mères partout. Oh, les grand-mères sont magiques.
Oui.
On aime nos grand-mères.
Quand Michael et Latisse ont terminé leur secondaire, ils sont déménagés ensemble avec leur petite Maitrice, puis Mildred, l'arrière-grand-mère, s'occupait de la petite pour que les parents puissent aller travailler. Donc, elle était tout le temps dans le portrait.
Mm-hmm.
Puis quand Maitrice avait environ 4 ans, Michael, son papa, il est allé en prison parce qu'il s'était mis à vendre de la drogue.
Oups!
Faut dire que c'était pas vraiment son désir, mais il s'est aperçu que vendre de la drogue, ça lui rapportait beaucoup plus d'argent plus rapidement que de travailler dans un resto, par exemple. Fait que Michael comptait faire ça juste pendant un petit bout, mais il a exagéré, puis il s'est fait prendre. Il a reçu une peine de 8 ans de prison, puis c'est comme ça que Latisse puis Michael se sont séparés.
Oh, 8 ans pour la drogue, c'est long, ça.
Oui. Maitrice a donc été élevée par sa mère et son beau-père, puis elle allait chez sa grand-mère. Ben, en fait, c'est son arrière-grand-mère, mais comme Latisse n'avait pas vraiment de contact avec sa mère, Mildred avait le rôle de la mère de Latisse. Okay? Ils sont très proches.
Okay.
En 93, alors que Maitrice avait 8 ans, elle, sa mère puis son beau-père quittent Los Angeles parce que ça brasse pas mal là, dans ces années-là. En 91, il y avait Rodney King, un homme noir, qui s'est fait battre sauvagement par des policiers du Los Angeles Police Department. Puis la scène a été filmée, puis ça a passé partout à la télé, ça a choqué le monde entier.
Oh yeah, the LA riots were crazy!
En avril 1992, les 4 policiers ont été acquittés. Puis là, ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. La ville a explosé. Il y a eu des émeutes, des feux, pillages, la violence partout, surtout dans les quartiers les plus pauvres. Donc, c'est ça que tu disais, les LA riots, là, les émeutes, c'était...
Oh my God.
Ce verdict-là, ça a réveillé une colère qui était là depuis longtemps, en fait, là, le racisme, l'abus policier, pauvreté, inégalité. Fait qu'en 93, même si les émeutes étaient finies, Los Angeles n'était pas revenu à la normale. Okay? Il y avait la méfiance qui était encore là, l'ambiance était lourde, puis la ville apportait clairement les cicatrices de ce qui venait de se passer.
Mm-hmm.
La famille Richardson est noire, puis ils n'en peuvent plus de vivre dans une ville où le racisme ne fait que prendre de l'expansion et où ils se sentent en danger avec les émeutes quotidiennes.
Mm.
Afin d'espérer pouvoir vivre dans un endroit plus calme, ils sont déménagés à Covina, qui est environ 40 km à l'est de Los Angeles. C'est une belle banlieue, beaucoup plus relaxe que LA. Puis là, la famille était bien. Maitrice réussissait super bien à l'école. C'était une petite élève modèle. Elle avait une facilité à apprendre que peu de jeunes ont. Puis adolescente, elle avait plein d'amis puis elle faisait du cheerleading.
Oh, shout out. Ça va bien. Good.
Ouais.
On peut dire que Maitrice a... maîtriser ses études.
Maîtriser. Elle a développé un grand intérêt pour la psychologie. Alors, après le secondaire, elle s'est inscrite en psychologie au California State University à Fullerton. Fullerton.
Nailed it. Bravo.
Ah, c'était pas facile.
Non, c'est bon ça. Tu l'as fait.
Tout le monde était tellement fier d'elle parce que Maitrice était la première de la famille à aller à l'université.
Shout out Maitrice.
Mildred, l'arrière-grand-mère, habitait juste à côté de cette université-là, alors elle a emménagé avec elle pour ses études. Comme ça, elle n'avait pas à faire des allers-retours Covina-Fullerton tous les jours. C'est juste environ 30 minutes, mais je sais pas si elle avait sa propre voiture dans ce temps-là, puis de toute manière, pouvoir marcher pour aller au travail ou à l'école, c'est le best, là.
Mm-hmm.
Maitreese a gradué en 2008, puis elle souhaitait faire une maîtrise pour poursuivre en psychologie. Pendant ses études, elle travaillait dans un club de danseuses gays. Puis, je spécifie parce que ça semble être plus safe de travailler dans si t'es une danseuse dans un club lesbienne. Genre, t'es une danseuse fille, je sais pas. Pourquoi? Ça a l'air plus safe pour moi.
I mean, généralement, si on check juste les statistiques, je suis pas en train de pointer des doigts là. Mais si on check les statistiques, oui, les hommes sont plus souvent coupables pour des voies de fait. Viol, des affaires de même. So, j'imagine que oui, c'est probablement plus safe.
Puis après ça, j'écrivais au risque d'être sexiste. Je me sens toujours plus à l'aise dans une crowd de femmes que dans une crowd d'hommes. Je me suis jamais fait donner une tape sur les fesses dans un festival par une femme, genre. Alors, bon, Maitreese travaille dans un club de danseuses. Elle était très occupée. Elle avait un horaire de fou, hein, parce qu'elle allait à l'université. Elle travaillait. Elle avait un autre job aussi, un moment donné, que je me rappelle pas c'est quoi, là, mais bon... Elle travaillait beaucoup, OK? Puis de toute manière, c'est pas super important pour l'histoire. Il faut juste comprendre qu'elle est occupée. Puis elle s'assurait quand même toujours au moins de souper une fois par semaine avec sa grand-maman. Ben son arrière-grand-mère, on a déjà discuté. Avec sa grand-maman Mildred.
Nice.
Elle prenait le temps de s'arrêter, de mettre toutes ses occupations sur pause pour s'asseoir avec sa grand-maman chérie d'amour.
Good. C'est bon ça.
Mais Maitreese, là, elle n'allait pas si bien que ça. Okay? Parfois, elle restait dans sa voiture pour sauver du temps. Genre, elle pouvait passer plusieurs nuits à dormir dans sa voiture. Le club où elle travaillait était à LA. Alors, au lieu de revenir chez sa grand-mère à Covina, elle couchait dans son auto. Ça pouvait arriver. Ses amis ont commencé aussi à remarquer des comportements anormaux. Donc, en plus de dormir dans ton char, ce que je trouve assez anormal, elle publiait constamment sur les médias sociaux, MySpace, Facebook, à toutes les heures, okay, que ce soit la nuit, le matin, le jour. Puis les publications étaient douteuses. Voici un exemple. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleurant à 7 heures du matin un samedi parce que maintenant tu vois la lumière, tu vois toutes les personnes perdues dans le noir? C'est un de ses posts qu'elle avait.
Ouh, triste.
Elle parlait aussi beaucoup d'astrologie, beaucoup trop d'astrologie.
Cuckoo bananery.
Genre, elle en faisait une fixation. Ses amis l'ont déjà entendu dire qu'elle était mère nature.
Mother nature?
Yeah.
Ouf. OK.
Fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans son coconut. On sait pas trop c'est quoi. Mais bon, elle a des comportements un petit peu étranges.
C'est inquiétant, ça.
Ça va s'étendre sur plusieurs mois. Puis en 2009, Maitreese, qui a maintenant 24 ans, ne voyait plus beaucoup ses amis. Son comportement devenait de plus en plus weird. Elle avait une blonde, OK, à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que des fois, ça explique aussi pourquoi tu vois moins un petit peu tes amis, mais elle était aussi un petit peu weird. Puis l'affaire, c'est qu'elle n'était pas connue pour prendre la drogue. OK, tous ses proches, même sa blonde, vont dire, ben non, elle prend pas de drogue.
Non, c'est ça. Tu sais, elle était une bonne étudiante. Elle you know, visait un futur de succès, là. C'est pas elle, ça.
Puis ses amis, mais il a texté de moins en moins parce que ses messages faisaient plus trop de sens. Voici un exemple de message texte qu'elle pouvait envoyer. Mettons, sa mère, elle lui texte « Allô, comment ça va? » Puis Maitreese, elle répond « Je suis en train d'écrire un livre parce que tu me dis que je pouvais faire, que je pouvais être qui je voulais dans la vie. Tu me dis que j'étais Miss America. Tu me dis que j'étais America's Next Top Model. Veux-tu savoir ce que je veux être quand je serai grande? Miss Mère Nature parce que Miss America is a fake-ass joke. » Genre, tu sais, mettons...
Yeah, but
allô, comment
Miss
ça va?
Miss Mère Nature n'existe pas non plus, là.
Non, c'est ça. Elle partait dans des... Tu sais, allô, comment ça va? Puis c'est ça qu'elle répond, c'est genre... OK, là, c'est... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête en ce moment. Là.
Yeah, yeah. Puis elle a la misère de comme organiser ses pensées dans une comme, façon qui est rationnelle.
Faut qu'elle sorte, tu sais.
Yeah. I mean, you know, shout out à la mère qui l'a enseigné qu'elle peut faire n'importe quoi en vie, tu sais.
Ouais.
You know, viser pour la lune, là. Go for it, but...
Le 16 septembre 2009, Maitreese se rend chez sa tante, OK? Cette dernière, elle n'a pas répondu à la porte. Fait que là, Maitreese, elle a laissé plein de cartes d'affaires devant la porte d'entrée. Ben, cartes d'affaires, genre sa carte de danseuse. Mais quand je dis plein, c'est comme elle les a toutes sacrées par terre devant la porte d'entrée. Puis oui. Elle a laissé une note vraiment weird sur le windshield de la voiture de son oncle. C'était genre un bonhomme sourire, puis l'écriture vraiment difficile à lire, mais on pouvait déchiffrer quelques mots, dont « black woman ». Genre, c'est quoi le rapport? Toc, 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 il y a personne, je laisse toutes mes cartes, j'écris un message weird sur le windshield du char, puis je m'en vais. Tu sais, c'est des comportements un petit peu étranges.
Ça, c'est quoi? Elle est frappée par la schizophrénie ou... OK. All right, on sait pas. All right.
Ensuite, elle arrive chez sa grand-mère, puis elle lui dit qu'elle peut pas souper avec elle, comme d'habitude, ce soir-là, parce qu'elle voulait se rendre à Malibu.
OK.
Qu'elle manque le souper avec sa grand-mère, c'est inhabituel, mais c'est pas bizarre. T'sais, ça peut arriver. Sauf que là, toutes les choses bizarres qu'elle a faites, les messages textes qui font pas de sens, les fixations sur l'astrologie, la carte d'affaires chez sa tante, puis manquer le souper, ben c'est inquiétant. Sauf que sa grand-mère est pas consciente de tout ça. Elle sait pas à quel point sa petite fille agit de manière weird avec les autres. Mildred est souvent seule chez elle. Fait que, tu sais, elle fait pas le lien avec tout ça. Elle est comme, je vais t'occuper, ma petite fille. OK, c'est correct. On se reprend la semaine prochaine, tu sais.
Right, right. Il y a aussi peut-être le déni, tu sais.
Ben, peut-être aussi. Là,
tu espères le meilleur pour elle, puis... OK, all right.
Alors, Maitrice conduit donc sur le Pacific Coast Highway, PCH, une autoroute vraiment magnifique, bordée de palmiers, juste à côté de l'océan. Elle s'arrête dans un resto-bar assez bougie, OK?
Oh.
Qui s'appelle Jeffrey's.
Jeffrey's!
Bianca!
Bianca est en train de défaire tout notre setup de podcast ici.
Alors, elle s'en va au Jeffrey's, puis elle arrive pour se stationner, mais tu peux pas juste... te stationner, il faut utiliser le service de valet. T'sais. Mais là, sur le coup, elle ne sait pas. Fait qu'elle apprend ça. Elle finit par laisser ses clés au valet. Puis le valet, il dit, ben, tu peux-tu m'attendre quelques minutes? Je vais aller stationner une autre voiture, puis je vais revenir prendre la tienne. Puis pendant que Maitrice attend, ben, elle fouille dans une voiture random.
Mais really?
Mais l'affaire, c'est que quand le valet revient, il voit ça. Puis en plus, c'était son char à lui.
No way! Oups! Ouais.
Fait que c'est ça. Il est comme... qu'est-ce que tu fais, mon char? Puis Maitrice, ça répond, it's subliminal.
Subliminal?
Ça veut
je
dire
pense qu'elle
ne
connaît pas ce que ça veut dire, subliminal.
Ça veut dire quoi, it's subliminal?
Subliminal, ça veut dire comme un message ou un meaning qui est, it's implied, but it's not clearly stated.
Peux-tu le dire en français? C'est...
C'est comme un message ou un
c'est pas clair.
Un thème qui
bah, subliminal, ouais.
Yeah, c'est pas explicitement dit, mais si tu lis un petit peu profondément, comme lire entre les lignes, c'est comme OK, il y a quelque chose qui est comme caché en dessous le
mais c'est bizarre comme réponse. Tu vas.
Parce que c'est pas subliminal. T'es en train de fouiller dans un fucking char.
C'est ça. Puis là, après ça, elle lui dit. Elle lui dit, genre, qu'elle devait venger la mort de Michael Jackson. Puis on se rappelle ici que Michael Jackson est mort en juin 2009. Fait qu'à ce moment-là de notre histoire, ça fait 3 mois que Michael Jackson est mort. Puis c'était une grosse nouvelle dans le temps, là, quand Michael Jackson est mort.
Oh,
yeah,
it's the king of pop.
Fait que là, elle est comme, je venge la mort de Michael Jackson. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle fouille dans le char, mais c'est les réponses qu'elle donne. T'sais, fait qu'elle est comme incohérente. Dans sa tête, il se passe des affaires, puis on sait pas c'est quoi.
Yeah, venger la mort de Michael Jackson par fouiller dans un char. I mean, Michael Jackson, techniquement, a été tué par son
docteur.
En guillemets, docteur. Yeah, yeah, yeah. Qui a prescrit beaucoup trop d'antidouleurs puis des médicaments pour somnolence, whatever, whatever.
Mais là, fait qu'en tout cas, le valet finit par stationner sa voiture, puis Maitrice, ça se rend au resto. Mais le valet, il a tout de même avisé les employés du resto que Maitrice était weird, puis qu'elle avait peut-être pris de la drogue. Tu sais, c'est de ça qu'elle avait l'air de l'extérieur, OK? Elle s'assoit, elle se commande un drink, puis un steak Kobe, K-O-B-E.
Oh, Kobe beef. That's
hey,
Japanese.
65 balles.
Yeah, yeah, yeah.
Le steak.
I mean, la bœuf Kobe, c'est fucking...
Genre, ton steak, il a coûté 65$.
Yeah, yeah.
Juste le steak.
Parce que comme tout le monde est... Bon, pas tout le monde, mais la plupart du monde sont familiers avec Wagyu beef, qui est un bœuf de haute qualité de Japon.
T'es
mais...
qui, toi, pour parler de bœuf de qualité? Tu manges pas de viande depuis que t'as 13 ans.
Oui, mais je suis... un fan de la gastronomie.
Okay.
Puis je check ces affaires-là.
Okay.
J'étais cuisinier. Je mangeais pas la viande, mais j'étais fucking chef cuisinier dans un bel resto à Jasper, Alberta. Puis Je connais mes affaires.
Je connais son Kobe et son Wagyu.
Ben oui.
Fait que 65$ le steak. Là, il est environ 7 heures. Je sais pas, ça paraît-tu que je mange pas de viande non plus.
Puis avec l'inflation maintenant, c'est comme 200 balles.
Mais c'est ça, c'est en 2009. Fait que tu sais.
That's it.
Là, il est environ 7 heures, puis le soleil se couche. C'est vraiment beau au Jeffries. À Malibu, imagine, là, tu as une vue sur la mer, le coucher du soleil, c'est magnifique. Fait qu'elle a vit sa best life, a fini de manger, sa facture est de précisément 89,51 pour son steak et son drink. OK? Puis avant de partir, Mitrice décide de se joindre à une table de 7 personnes. Elle prend sa chaise puis elle s'incruste dans leur soirée pour leur partager le fait qu'elle venait d'une autre planète puis que sa mère était la planète Terre. Tout va bien.
Tout va pas bien?
Elle reste jusqu'à ce que tout le monde à la table ait payé leur bill puis quitte. Alors, Maitreese fait la même chose, sauf qu'il y a un employé du restaurant qui vient la voir pour lui dire « Madame, votre repas n'est pas payé, là. » Puis là, Maitreese, elle dit « Oui, oui, c'est eux qui ont payé en parlant des gens qui étaient avec elle. » Et l'employé lui confirme que non, il n'y a personne qui a payé pour elle puis qu'elle leur doit 89,51. Maitreese avait 2000$ dans son compte en banque. Okay?
Okay.
Fait qu'elle avait l'argent pour le payer. Bon, peut-être qu'elle avait des billes à payer puis qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter ça, mais elle avait quand même l'argent. Puis elle a décidé d'aller au restaurant. T'sais, c'est pas comme si elle n'avait pas une scène sur elle. Okay?
Non, c'est ça. Elle a consciemment fait une décision d'aller chez Jeffries au lieu de chez Taco Bell, right?
C'est ça. Fait que là, ben, elle dit « j'ai pas d'argent ». Elle offre même au gérant de payer nature. Mais bon, l'offre a été refusée.
Compréhensible.
Mitrice suggère qu'ils appellent sa grand-mère pour payer. Mildred, là. Chose qu'ils font. Puis la grand-mère est comme, mon Dieu, OK, oui, je vais payer pour ma petite fille. T'sais, elle ne sait pas trop ce qui se passe, mais elle se dit, elle doit avoir oublié sa carte ou de quoi de même. Fait que oui, je vais payer pour elle. Elle lui donne son numéro de carte. Elle leur donne au restaurant son numéro de carte de crédit pour aider sa petite fille. C'est pas dans ses habitudes de faire ça. Là. Fait que, comme je vais l'aider, il n'y a pas de souci.
Mais Mildred pense que, oh, elle doit être mal prise, je vais l'aider.
Mais c'est ça. Sauf que Jeffries, ils veulent pas prendre sa carte de crédit par téléphone. Il faut qu'elle signe, fait qu'il demande à Mildred de venir. Mais Mildred, là, elle a plus que 80 ans. No way qu'elle va conduire le soir. Okay?
Puis elle est au quoi? Au Fullerton?
Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas à côté.
Non!
Fait que le gérant, il est comme, OK, envoie-nous ta signature par fax. Mais c'est qui a un fax à la maison?
I mean...
En tout cas, pas Mildred. Elle a pas de fax.
Non! Non, I mean, maintenant, personne n'a un call list de fax. Fucking email ça, s'il vous plaît.
Ben oui, mais là, il y a des employés qui ont offert de payer pour Maitreese afin qu'elle quitte, mais le gérant a refusé. Puis en fait, je me mets en place du gérant, puis je pense que je ferais la même chose pour mes employés. Genre, tu veux pas que tes employés prennent l'habitude de payer pour les non-payeurs qui, mettons, même s'ils font pitié. Je veux dire, en tout cas, c'est juste une pensée, là. Mm-hmm. Il était comme, non, vous payez pas pour elle, là. Je sais pas, en tout cas. C'est gentil, là. Le geste est gentil, mais en tout cas, bref, il voulait peut-être juste protéger ses employés de ne pas commencer à faire ça. Okay?
Right, right.
Mais dans ce cas-ci, on s'entend que le gérant il aurait dû accepter parce que ça va finir de manière ben, fatale pour Maitreese.
Quoi? Il l'a forcé de faire la vaisselle pour payer sa repas, puis elle l'a noyé dans le... What's a sink in French?
La vaisselle dans le lavabo.
Lavabo?
Non.
Ah, oh, Jennifer. Ah, côté sombre.
Le gérant, il appelle la police, ou plutôt, il demande à un employé d'appeler la police. Puis au téléphone, l'employé explique, écoute, on a une cliente un petit peu folle. C'est ça qui se disent entre eux. Elle est un petit peu folle, puis probablement sous l'effet de la drogue, puis elle refuse de payer son repas.
OK.
Les policiers lui font... les policiers arrivent en se disant ça, là. Il y a une weird
qui a pas payé son repas. Il essaie de voler son repas. OK.
Fait qu'ils arrivent, ils font passer des tests pour voir si elle est saoule ou droguée, puis elle passe les tests. Mais ils s'aperçoivent qu'elle est un peu, mettons, incohérente. En fouillant dans sa voiture, ils ont trouvé du pot. Puis le pot, il était illégal en Californie en 2009. Puis c'était pas beaucoup de pot, OK, là?
Non, non,
je sais que tantôt, j'ai dit que Maitreese c'était pas connu pour prendre la drogue, mais on s'entend-tu que, bon, fumer un joint, faire du crack, c'est pas pareil, là? Fait que pas considéré que le fait que le pot... En tout cas, on se comprend, OK?
Non, that's it. Un verre de vin avec ton repas, puis deux bouteilles de Jack back-à-back, c'est pas la même histoire.
Mais le pot, ça peut te faire délirer si...
Oh, for sure.
Si, en tout cas, je l'ai déjà vécu, là, prendre une puff puis penser qu'on voulait m'empoisonner. Là, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais...
je pense qu'on l'a compté sur le podcast.
D'ailleurs, je prends rien.
Là, non, Jennifer, tu prends
le pot,
rien,
ça me fait pas.
Non, non.
Fait que... C'est ça. Le pot était illégal en 2009. Fait que le pot plus le fait qu'elle n'ait pas payé sa facture ont fait en sorte que les policiers ont pu arrêter Maitrice puis l'amener au poste de police.
Right.
Sa voiture est remorquée.
Mm-hmm.
Puis son téléphone puis son portefeuille sont dans sa voiture.
Oh!
Fait qu'elle, elle s'en va au poste de police. Son char est remorqué. Dans son char, il y a son téléphone puis son portefeuille.
Mais ça, c'est un manque de jugement sur la part des polices parce que t'es supposé d'amener ça. I mean, ça va être confisqué, en guillemets.
Ouais, mais si
ça va être
dit,
aux stations de police.
Si elle a pas dit, hey, by the way, mon téléphone, mon portefeuille, ils sont dans mon char.
OK, yeah.
Parce que dans son compte, parce que son portefeuille, c'est vrai qu'il était dans son char à Maitrice, là. Mm-hmm. Mais elle a pas dit qu'il y avait 2000$ dans son compte. Elle a dit, j'ai pas d'argent.
Les polices ont fouillé le char pour trouver la pote. Ils vont pas voir le portefeuille puis le téléphone puis dire, OK, on va mettre ça dans notre char de police, on va amener ça, ça va garder dans le salle de evidence, la salle de preuve ou whatever. Puis tu peux l'avoir quand on est fini avec toi.
Je sais pas.
Mm-hmm.
Alors, pendant que Maitrice se rend au poste de police, Mildred, la grand-maman, appelle Lettice, la maman de Maitrice, pour lui expliquer la situation. Lettice, la maman de Maitrice, appelle le restaurant, puis ce sont eux qui l'informent que ben, Maitrice a été arrêtée. Fait que là, Lettice appelle le poste de police, le Malibu Lost Hill Police Department.
Good. You got it.
Elle leur demande, ben là, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Puis là, elle leur dit, ben, on la détient, tatata. Elle dit, ben, quand est-ce qu'elle va pouvoir sortir? Je peux aller la chercher tout de suite. Mais le poste de police lui dit qu'elle sera relâchée demain matin. Ça fait un petit peu l'affaire de Lettice parce qu'elle a quand même elle a eu un autre enfant, mm-hmm, qui est à peu près, je pense qu'elle avait 9-10 ans, là. En tout cas, bref, trop jeune pour laisser ça à la maison. Fait qu'il aurait comme fallu qu'elle la porte avec elle. Fait que ça fait son affaire que Maitrice reste jusqu'au lendemain matin. Puis là, Lettice, elle dit quelque chose du genre. Êtes-vous sûr que vous n'allez pas la relâcher ce soir? Parce qu'il fait noir, ben elle n'a pas de voiture, j'ai pas envie qu'elle se promène seule dans un endroit qu'elle ne connaît pas, puis tu sais, j'ai vraiment pas envie de me lever demain matin puis de voir aux nouvelles une jeune fille perdue se fait couper la tête.
Prémonition.
Elle dit ça de même, là.
Mm-hmm. Puis c'est clair que Maitrice, you know, elle n'est pas dans le meilleur état, là. You know?
Non, c'est ça. Le policier au téléphone rassure la maman, Maitrice, elle va pas être relâchée ce soir.
OK.
Puis là, c'est un autre policier qui a rempli les papiers, le paperwork que les policiers doivent remplir, là.
La paperasse.
C'est ça. C'est un autre policier qui fait la paperasse de Maitrice. Puis sur le papier, c'est écrit qu'elle a été détenue pour possession de drogue. Il n'y a aucune mention de son comportement qui est noté. J'imagine que les policiers se disent, bon, je vais juste écrire une raison pour pourquoi elle est détenue, elle va repartir tantôt, on n'entendra plus parler, c'est pour ça qu'on la détient, en fait.
Right, mais il y a déjà un couple de oopsie-daisy sur le port des polices, là.
Je pense que le fait que personne ne connaissait Maitrice a vraiment joué un rôle crucial dans le fait que sa santé mentale n'a pas vraiment été abordée. Sa grand-mère et sa mère au téléphone n'étaient pas conscientes de l'ampleur du comportement de Maitrice non plus. Maitrice avait juste l'air weird ou encore drogué pour les gens de l'extérieur,
mm-hmm,
comme les policiers voient probablement un peu trop souvent.
Oh,
tu sais,
yeah,
ils envoient du monde de même. Fait que sont comme
yeah,
juste, c'est juste une autre... Là, c'est pas... Probablement que c'est ça qu'ils se sont dit. Tu sais, oh, c'est juste une autre... Une autre sa drogue, là, qui ne paye pas ses affaires, tu sais.
Well, that's just... Yeah, OK. Parce que les polices auront une attitude un peu plus blasée sur ça parce que la journée longue, la nuit longue, ils dealent avec du monde qui fait des choses que moi ou toi, on ne va jamais faire dans nos vies, là.
Non, c'est ça.
Puis pour eux, c'est comme normalisé, tu sais.
Puis là, on s'entend aussi que la grand-maman puis la maman, là, Lettice puis Mildred, eux autres, Lettice puis... Oui, c'est ça, Mildred... Eux autres, ils pensent que le seul problème, c'est que Maitrice, elle n'a pas payé son repas.
Right.
T'sais, ils ne sont pas au courant de toute l'incohérence qu'elle avait, toutes les affaires weird qu'elle disait. Que...
S'asseoir à une table de cette personne, you know, non invitée, et puis dire « Oh, je suis la mère nature. » Puis « Oh, au lieu de vous payer, je vais payer nature. » Non, 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 non.
Non, c'est ça. Ils ne savent pas ça. Ils sont comme juste ma fille. Elle n'a pas payé son repas. Fait que c'est ça.
Ça serait beaucoup plus inquiétant s'il y avait comme toute l'histoire.
Il y a plusieurs sources qui ont soulevé une question, ben, inconfortablement, sans doute, là. Si Mitri avait été une jeune femme blanche, est-ce qu'elle aurait été prise plus au sérieux par les autorités ce soir-là?
Yeah, peut-être amenée à un hôpital au lieu d'une station de police, là.
Ouais.
Mm-hmm.
Dans un contexte normal, lorsqu'une personne est arrêtée puis qu'elle présente des signes aussi évidents de désorganisation, de confusion ou de détresse mentale, elle peut être gardée sous observation ou encore dirigée vers un hôpital afin d'évaluer son état psychologique, surtout si des proches expriment des inquiétudes. Ce qui n'a pas nécessairement été fait dans ce cas. Ben, ça a été fait par la mère de dire « Hey, relâchez le pas parce qu'elle connaît pas le coin, tatata », mais elle n'a pas plus parlé de son état mental que ça.
Right.
Dans le cas de Mitrice, cette option-là n'a pas été retenue, en fait, parce que faut replacer ça dans son contexte. On est aux États-Unis en 2009, à une époque où la reconnaissance des crises de santé mentale, particulièrement chez les personnes racisées, était encore très inégale.
Oh yeah.
Sans affirmer d'intention malveillante, il y a plusieurs qui estiment aujourd'hui que des biais systémiques ont possiblement influencé la manière dont la situation a été interprétée, puis ultimement la décision de laisser repartir seul Mitrice dans la nuit. Parce que, Mitri, ça va être relâché vers 1h du matin. En fait, entre minuit puis 1h30. Ça n'a pas bien été noté dans le rapport, justement.
La négligence.
Le téléphone public de l'établissement est normalement sous écoute. Cependant, le téléphone ne fonctionnait pas ce soir-là. Les policiers affirment que Mitri a pu faire un appel sur le téléphone qui était sur le bureau d'un policier. Il n'y a personne qui sait qui elle a appelé ou si elle a réellement appelé. Parce que la grand-mère a dit qu'elle n'a pas reçu d'appel, puis la mère non plus. La mère de Mitri attendait l'appel de sa fille avec impatience et elle allait la chercher dès qu'elle recevait le coup de fil. Fait qu'eux autres, quand ils ont dit « OK, Mitri, tu peux sortir, t'as-tu un appel à faire? » Elle n'a pas pu le faire avec le téléphone public qui est écouté par le... parce qu'il était brisé. Mm-hmm. Puis eux, ils disent qu'elle a fait un appel à partir du téléphone sur le bureau du policier.
Right, mais il y aura quand même des records téléphoniques de le numéro qui était appelé par avec ce téléphone-là. Tu sais, même en 2009, il y aura des caméras de surveillance dans une station de police. Alors, tu peux checker les enregistrements, voir à quelle heure qu'elle a appelé, checker sur les records d'appel, voir, un appel a été placé à 1h du matin, on la voit sur la caméra avec le téléphone dans la main, checker le numéro, c'est qui?
Est-ce que Mitri a réellement appelé? Si oui, c'est qui qu'elle a appelé? C'est un mystère.
That's right, ça se peut qu'elle a pesé 1-1-1 et dire, « Allô, Nature? Oui, c'est moi, la mère Nature, ça va bien? » Naturellement.
Faut aussi comprendre en ce moment où se trouve exactement le poste de police du comté de Lost Hills. C'est pas un poste urbain, là, ni même semi-urbain, honnêtement. Là. Lost Hills Sheriff's Station dessert un territoire immense puis vraiment rural qui inclut les montagnes de Malibu. À cette heure-là de la nuit, il y a pratiquement rien d'ouvert.
Lost Hills veut dire côte perdue.
Non, c'est ça. Il n'y a rien d'ouvert à ce temps-ci, la nuit. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café, pas de transport en commun qui est fonctionnel. Non. On est entouré de routes sinueuses, de collines, de sentiers, de noirs complets. Libérer quelqu'un à minuit passé dans cet environnement-là, sans téléphone ni moyen de transport, ça revient essentiellement à le laisser seul au milieu de nulle part.
Non, c'est pas comme un centre urbain où il va y avoir un taxi qui passe aux 5 minutes, là.
Ce contexte rend la décision encore plus troublante parce qu'il n'y avait tout simplement aucune option réaliste pour se mettre en sécurité à proximité. Mitrice n'avait pas son téléphone, je le rappelle, puis il n'avait pas son portefeuille non plus.
Non.
Il y a certaines sources qui mentionnent que les policiers ont demandé à Mitrice d'attendre que quelqu'un vienne la chercher, mais que Mitrice leur a dit qu'elle souhaitait partir rejoindre des amis. Lettice, la maman, se réveille à 5h30, puis elle appelle tout de suite le poste de police parce qu'elle n'a pas eu de nouvelles. Elle souhaite connaître la démarche pour que sa fille soit libérée sous caution. Elle est prête à payer. Puis aussi, elle veut savoir si elle peut enfin aller la chercher.
Right.
Puis c'est là qu'elle apprend exactement ce qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit arrivé. Elle apprend que Mitrice a déjà été libérée pendant la nuit, chose qu'elle avait demandé qui n'arrive pas. Elle avait dit là...
Furieux.
Je veux pas que vous la laissiez pendant la nuit, j'ai peur qu'elle se retrouve la tête coupée. Elle avait dit une phrase de même, là.
Right.
Fait que là, le T, ça capote bien raide. Je sais pas si elle a attendu une heure raisonnable pour contacter des gens ou si elle a fait ça tout de suite, tôt le matin, là, mais au final, tout ce que je sais, c'est qu'elle a rejoint les amis de Demetrius pour savoir si ces derniers ont eu des nouvelles d'elle. Évidemment, elle téléphone aussi la grand-maman, puis il n'y a personne qui sait où est Demetrius, puis il n'y a personne qui a eu de nouvelles. Letice téléphone donc au poste de police encore, puis elle souhaite signaler la disparition de sa fille, mais la personne à l'autre bout du fil lui explique que c'est mieux d'attendre 24 heures, que c'est un adulte, qu'elle risque de se présenter tôt ou tard, blablabla. On connaît cette chanson-là. Letice essaie d'insister pour dire qu'elle croit que sa fille ne va pas bien du tout, qu'elle pense qu'elle est déprimée, mais au final, elle raccroche puis elle n'a pas signalé sa disparition. Parce que l'autre personne, elle l'a convaincue que « Mais non, elle va revenir, attends un petit peu. » À 6h30 du matin, le poste de police du comté de Lost Hills reçoit l'appel d'un résident, quelqu'un qui reste dans le quartier. Mm-hmm. Il dit qu'il y a une rôdeuse, a prowler. Il dit qu'il y a une rôdeuse qui était dans sa cour. L'homme y habite entre Calabasas puis Malibu, un endroit qui s'appelle Montenido. Okay? C'est pas une ville à proprement parler, mais c'est plutôt une poignée de maisons dispersées dans un canyon vraiment étroit, entouré de collines vraiment abruptes puis de végétation dense et de sentiers sauvages. La route elle-même est super sinueuse, elle est étroite, il n'y a pas de trottoir, puis c'est souvent mal éclairé, bordé de pentes bien raides, là, des pentes super raides. Marcher seul dans cet endroit-là, surtout au milieu de la nuit, c'est se retrouver dans un environnement clairement hostile où il n'y a aucun refuge immédiat, aucune porte ouverte ou demander de l'aide, puis il y a très peu de chances de croiser quelqu'un.
Non, c'est ça, sur un côté de la route, il y a un mur de roche, puis l'autre côté, tu fucking tombes à ta mort, là.
Non, c'est ça, c'est un canyon isolé entre deux mondes, c'est loin de tout.
Non, that's it. On a fait la route dans des canyons de même, spécialement sur notre lune de miel parce qu'on passait dans Hollywood puis on checkait des affaires là-bas, on faisait du sightseeing.
Ouais.
Puis c'est ça, c'est des petites routes minces.
Comme dans les films, c'est ça.
That's it. Puis on avait notre décapotable qu'on a loué puis on était fucking full fun. Oui. Mais anyway.
Fait que ce gars-là, il appelle la police parce que jamais de la vie, il y a eu quelqu'un qui dormait dans sa cour auparavant. Tu te rends pas là à pied, là. Il y a pas de sans-abri dans ce coin-là pour monter, là.
Non, c'est fucking chic.
Ben non, c'est chic, mais c'est aussi, c'est isolé. Tu vas pas marcher là, il y a rien. Tu sais, en tout cas. Fait que l'homme, il a appelé les polices, mais avant, il a demandé à Demetrius si elle était correcte, puis Demetrius aurait, ben Demetrius, on pense que c'est Demetrius, là, parce qu'elle ressemble à la description de Demetrius.
Right.
Fait que si c'est Demetrius, elle aurait répondu « Je suis correct, je fais juste me reposer. » Pendant son appel avec la police, Letice a su que quelqu'un qui fit la description de Demetrius a été observé à Montenido. Justement, elle a su ça, qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être vu sa fille à Montenido.
Le « en guillemets prowler », right?
Oui, okay. Le « prowler ». Fait que là, la rôdeuse. Là.
Yeah.
Fait que là, elle sait qu'il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il y avait une rôdeuse dans sa cour à Montenido. Fait qu'elle, tout de suite, elle prend son char, elle s'en va là pour chercher sa fille, mais bon, elle la trouve pas. Les proches de Demetrius se rallient puis distribuent des affiches avec sa photo puis essaient de la retrouver. Quand les fameux 24 heures sont enfin passées, le poste de police est venu en aide avec des chiens renifleurs. Les recherches se poursuivent pendant 3 semaines et il n'y a aucune trace de Demetrius nulle part. La famille de Demetrius demande à voir les caméras de surveillance du poste de police, mais leur demande est refusée.
Pourquoi? Ah, parce que ça va impliquer la négligence.
Ben, en fait, c'est ça. C'est plus complexe que ça. Au départ, le chef de police il a dit qu'il n'y avait aucun enregistrement de la soirée de Demetrius, quand plus tard, l'enregistrement a été retrouvé dans le tiroir du bureau du chef de police.
Really? Ah, il cache quelque chose.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Le nom du chef de police était Tom Martin, puis Tom Martin il a été renvoyé plus tard pour inconduite sexuelle.
Ooh, bad Tommy! On fait pas ça!
2 mois avant l'histoire de Demetrius, il a essayé de violer une femme, puis la femme en question avait des problèmes de drogue et il lui a dit que de toute manière, il n'y a personne qui allait la croire parce que c'était juste une droguée. Okay? Fait que là, il s'est fait renvoyer. Mais ce gars-là, il était là.
Yeah.
Quand Demetrius, tu sais.
Ouh! Est-ce que ça, c'est un indice, Jennifer?
La famille n'a pas arrêté de mettre de la pression pendant des mois et des mois pour avoir les enregistrements avec l'aide d'un avocat afin d'avoir finalement accès à l'enregistrement. Ils ont fini par réussir. Il n'y a rien de vraiment frappant qui peut être vu sur les enregistrements, mais selon certains, le comportement de Demetrius dans sa cellule est étrange. Elle tient les barreaux puis elle se balance de l'avant vers l'arrière. Mais en même temps, je me dis, elle n'a absolument rien à faire dans la cellule. Fait que t'as qu'à... Mais selon plusieurs, elle peut avoir l'air weird. Okay?
C'est pas une bonne signe, ça.
En mars 2010, le LAPD, Los Angeles Police Department, a organisé une grosse recherche avec plus de 300 bénévoles pour retrouver Mitrice, mais rien. Le 6 août 2010, des Rangers cherchaient des plantations de potes dans le Dark Canyon en lien avec un cartel mexicain. Okay? Ils étaient bien contents de voir que la plantation qu'ils avaient pognée l'an passé n'était pas revenue.
Mm-hmm.
Mais ils étaient un petit peu moins contents de tomber sur un crâne humain.
Oh non, Jennifer.
Sous les débris de feuilles puis de la terre, il y avait un corps nu à moitié décomposé.
Oh non, Jennifer.
Les Rangers, ils ont tout de suite compris que c'était sérieux. Là. Ils ont pris la radio, ils ont averti leur supérieur, puis rapidement, la machine s'est mise en marche. La police responsable du secteur a été contactée, puis le médecin légiste.
Mm-hmm.
Pendant ce temps-là, des agents se sont rendus dans le canyon pour rester sur place près du corps. Assez vite, ce que tout le monde redoutait s'est confirmé, là, c'était Mitrice Richardson. Les Rangers sont partis, puis les policiers sont arrivés. Le corps de Mitrice était partiellement recouvert de feuilles, de terre, de débris naturels. Des cheveux étaient encore accrochés à son crâne. D'autres traînaient un peu plus loin, emmêlés avec une boucle d'oreille et de petits morceaux de métal.
Oh my God!
Les premiers agents du poste de Lost Hills arrivent sur place en début d'après-midi, environ une heure et demie après l'appel initial. Il fait encore grand jour. Il reste des heures avant la tombée de la nuit. En théorie, c'est largement assez pour faire les choses correctement. Donc, documenter la scène, prendre des photos, ramasser les éléments importants, laisser le coroner faire son travail. D'ailleurs, la loi est claire, dès qu'on découvre des restes humains, le coroner doit être averti immédiatement.
Mm-hmm.
Sauf que dans ce cas-là, ça traîne. Puis beaucoup. Le coroner ne sera officiellement contacté que bien plus tard, alors que des agents sont déjà sur place depuis un bon bout.
Ben, what the fuck, Jennifer?
En fin d'après-midi, l'équipe du coroner est déplacée vers le poste de Lost Hills. On leur dit qu'un hélicoptère va venir les chercher pour les amener sur le site. Pendant ce temps-là, deux détectives du shérif, eux, sont déjà transportés par hélicoptère jusqu'au canyon. Le soleil commence à descendre, mais il n'y a toujours aucun hélicoptère pour le coroner. On dirait qu'il y a tout qui se passe pas bien. Là.
Mm-hmm.
Les minutes deviennent des heures. On leur explique que l'appareil a été réaffecté ailleurs. À ce stade-là, l'équipe se dit que ça ira probablement au lendemain. Puis sans avertissement, sans feu vert du coroner, il y a une décision qui est prise. Vers 20 heures, le shérif obtient finalement un hélicoptère. Il décide d'agir seul. Le corps est récupéré et transporté par les détectives malgré le fait que la loi interdit clairement de déplacer une dépouille sans l'autorisation du coroner.
Yeah, qu'est-ce que le fuck? My God, qu'est-ce
que... Ils ont-tu quelque chose qu'ils doivent cacher?
That's it. C'est fucking full négligence. C'est la seule raison de ne pas suivre le protocole. C'est louche. C'est méga louche.
Fait que ça veut dire que pendant des heures, les forces de l'ordre ont eu un accès exclusif au corps pendant que l'équipe médico-légale attendait.
Mm-hmm.
Il y a un ancien détective du LAPD qui va résumer plus tard très simplement, le travail de la police, c'est de protéger une scène, pas de la modifier, pas de déplacer un corps.
Mm-hmm.
Il y a une experte reconnue en anthropologie qui s'appelle Clea Kauf, anthropologie judiciaire, pardon, qui n'en revient pas de ce qui a été fait. Selon elle, même si le shérif voulait récupérer le corps sans le coroner, ça aurait dû se faire après une évaluation claire. Donc, des photos, descriptions détaillées, visites sur place. Mais il n'y a rien de tout ça qui a été fait correctement.
Non, ouais.
La scène n'a pas été documentée comme il faut. Il n'y a aucun échantillon de sol qui a été prélevé. Puis le coroner s'est retrouvé avec un corps sans contexte.
Mais ça, c'est le caca de taureau, ça. That's fucking bullshit.
Puis quand on regarde les détails, hein, y a une jambe qui a été retrouvée plus haut que le reste du corps, sans traces d'animaux, dans un endroit où les charognards font normalement disparaître un cadavre en quelques jours. Là.
Uh-huh. Puis tu m'avais dit que des cheveux puis un bouc d'oreille étaient trouvés pas loin du corps, mais c'est pas bon, ça. C'est très bizarre.
Mais tout ça, c'est difficile à expliquer, puis on... Qu'est-ce que c'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est peut-être pas de la malveillance du tout, mais...
Mais come on!
Tu sais, il y a de quoi se questionner. C'est comme si depuis le début, depuis la décision de la laisser, depuis l'arrestation, la porter au poste, la laisser là, la faire sortir, tout a été bizarre. Non, on n'a pas d'enregistrement. Ah, finalement, les enregistrements sont trouvés dans le bureau. Puis ce gars-là a été renvoyé pour inconduite sexuelle. C'est quoi, il a tué ce soir-là, il savait-tu qu'elle allait être relâchée, puis s'est essayé dessus, puis finalement, il l'a tué, puis finalement, mais il essaye de tout... Là, il travaille plus là, mais tout le monde essaie de couvrir... Il essaye de couvrir un travail qui a été mal fait. Je sais pas.
Corruption.
La cause de la mort de Meetrice reste indéterminée. On soupçonne un étranglement parce que il y a de la couleur rouge dans ses yeux, mais comme l'ossioïde du corps n'est pas là, on ne peut pas confirmer. Parce que quand il y a un étranglement, normalement, ben souvent, l'ossioïde, il se brise, tu sais. Mm-hmm. Mais là, ils ne l'ont pas, l'ossioïde. Ils ne peuvent pas dire si l'ossioïde est brisé, sauf qu'il y a du rouge dans ses yeux, comme si elle avait manqué d'oxygène, tu sais. Les policiers ont tenté d'expliquer que la mort de Meetrice serait peut-être due à une morsure de serpent ou encore par d'autres animaux. Mais là, l'affaire, c'est que pour que la thèse des animaux tienne la route, faudrait croire que des charognards ont déshabillé Meetrice pièce par pièce. Mm-hmm. Souliers, bas, jeans, ceintures, sous-vêtements, même le soutien-gorge, comme s'ils savaient exactement quoi enlever et comment. Puis après ça, il y aurait ensuite traîner une jambe détachée à contrepente sans laisser de marque de morsure, pris le temps d'arracher le fémur, puis réparti ses vêtements un petit peu partout dans le canyon à des centaines de mètres les uns des autres. Pour finir, il aurait fait disparaître le reste sans laisser de trace. C'est le travail d'animaux.
Ce sont des astides d'animaux, là. Ça, c'est impressionnant. Mais je parle pas.
L'anthropologue judiciaire Clea Coff va dire que penser que ça, c'est l'œuvre des animaux, là, c'est complètement absurde.
Je suis avec elle.
La famille de Meetrice Richardson a demandé à la Californie de revoir le travail du shérif. En 2015, après avoir analysé des centaines de pages, le bureau de la procureure générale de l'époque, Kamala Harris, a d'abord conclu qu'il n'y avait pas...
Kamala Harris? Really? OK.
a d'abord conclu qu'il n'y avait pas de matière à accusation criminelle. En 2016, il y a une enquête criminelle qui est finalement ouverte. Puis un an plus tard, en janvier 2017, la Californie tranche. Il n'y a pas assez de preuves pour poursuivre qui que ce soit.
No shit. Kamala Harris était le vice-président des États-Unis.
Il faut cependant noter qu'en 2014, le comté de Los Angeles a accepté de verser environ 900 000 US à la famille dans le cadre d'un règlement à l'amiable Civil Settlement. Le règlement n'impliquait aucune reconnaissance de faute de la part du bureau du shérif.
Yeah, right.
Il visait surtout à clore le dossier civil lié à la façon dont Meetrice avait été libéré seul en pleine nuit puis à la gestion de sa disparition par les autorités.
Non, il achète de la paix. Il essaie de couvrir leurs traces, là.
Exactement. Oui, il y a eu compensation financière, mais sans admission de responsabilité, ce qui explique pourquoi, pour la famille, l'argent n'a jamais vraiment été... remplacer les réponses qu'ils cherchaient, finalement.
Mais ça, c'est louche. Ça, c'est louche. C'est comme, hey, on n'est pas... c'est quoi le mot que je cherche?
Coupable.
Yeah, on n'est pas coupable, mais voici une énorme somme d'argent. On fait ça de même. C'est comme, really? Pour vrai? OK, whatever, man.
C'est important de le dire clairement. Par contre, là, Meetrice Richardson n'a jamais fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique officiel qui a été rendu public, OK? Il n'y a personne qui peut donc affirmer avec certitude qu'il était atteint d'un trouble bipolaire ou de quoi que ce soit.
Right.
Cela dit, par contre, plusieurs comportements observés dans les heures précédant sa disparition ont amené les enquêteurs, la famille et plusieurs spécialistes à évoquer la possibilité d'une crise mentale aiguë compatible avec ce qu'on appelle un épisode maniaque, sans que ce soit une conclusion médicale formelle. Alors, tantôt, j'ai dit un trouble bipolaire, mais peu importe, là, elle n'a jamais été diagnostiquée de rien.
Right. Okay? Right.
Le soir de son arrestation au restaurant Jeffrey's, là, à Malibu, Meetrice avait un comportement que les employés décrivaient comme confus puis désorganisé. Mm-hmm. Elle commande plusieurs plats, elle commande un repas qui est assez coûteux alors qu'elle n'a pas les moyens de payer. Elle tient des propos décousus, elle parle de religion, de rédemption, elle affirme que Barack Obama va l'aider financièrement. Elle disait vraiment plein d'affaires.
I wish Barack Obama would aid moi financièrement, mais c'est pas le cas.
Il y a des policiers qui rapportent également un discours teinté de spiritualité intense puis de grandeur, là, l'impression qu'elle est investie dans une mission particulière, comme sauver Michael Jackson. Comprendre les choses.
Venger Michael Jackson.
Excusez, oui, venger Michael Jackson.
Parce que c'est un peu tard pour la sauver.
Elle comprend des choses. Elle dit comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Puis ce type de pensée-là, lorsque ça apparaît soudainement puis de façon marquée, c'est souvent observé dans certains états de crise psychologique. Après sa libération vers minuit et demi, Meetrice est laissée seule, sans téléphone, sans voiture, au beau milieu de la nuit. Plutôt que de chercher de l'aide ou un abri, elle s'enfonce à pied dans la montagne de Malibu. Toi, elle va être vue à plusieurs kilomètres de là. Elle a erré dans des zones dangereuses, sans montrer de signe de peur. Ben, on ne sait pas si elle avait peur, mais elle a quand même marché assez loin, là. Yeah. Puis elle n'a pas cherché de l'aide, ou si elle a cherché de l'aide, on ne le sait pas, mais tu sais, elle ne s'est pas arrêtée dans une maison pour cogner, pour dire « aidez-moi, je suis perdue, là ». Il y a des écrits personnels puis des messages analysés par la suite qui suggèrent aussi qu'elle dormait très peu depuis plusieurs jours. La privation de sommeil s'est reconnue comme un facteur aggravant puis parfois déclencheur de crises psychologiques sévères. La famille Demetrius, de son côté, a toujours soutenu qu'elle vivait une crise mentale, puis elle a affirmé qu'elle avait déjà présenté des épisodes similaires dans le passé. Ils ont même demandé expressément aux policiers qu'elle ne soit pas libérée à cette heure-là. Bon, est-ce qu'ils ont assez insisté sur son état mental? Probablement pas, mais...
Wow!
La blonde Demetrius a contesté l'idée qu'elle souffrait d'un trouble mental chronique. Par contre, le portrait de Demetrius, c'est comme incomplet puis complexe en même temps. T'as la famille qui dit oui, elle va pas bien, puis t'as sa blonde qui est comme, ben non, elle était correcte.
Right. Mais tu sais, comme tu viens de dire, elle n'était pas diagnostiquée, elle n'était pas suivie. Ça, c'est comme, you know.
Alors, c'est sûr que, tu sais, on n'est pas là pour poser des diagnostics.
No.
On n'est vraiment pas des professionnels. Sauf que,
no.
Tu sais, ce que je vous dis là, c'est au regard des experts qui ont analysé la situation après la mort de Demetrius.
Right.
Mettons, son discours grandiose, désorganisation, impulsivité, errance nocturne, absence de perception du danger et manque de sommeil, ça suggère fortement que Demetrius traversait peut-être une crise mentale sérieuse au moment où elle a été relâchée.
I mean, les délusions de grandeur, là. Elle pense qu'elle est fucking la mère nature. C'est tough.
Non, c'est ça. Je vais vous lire quelques théories plausibles sur la mort de Demetrius. Bon, ça pourrait être une désorientation grave suivie d'un accident. Ça, c'est la version qui est officielle. Demetrius aurait erré pendant des heures, voire des heures, dans un terrain extrêmement dangereux. Le canyon est abrupt. C'est traître, c'est facile à mal évaluer, surtout de nuit. Fait que peut-être qu'elle aurait fait une chute mortelle.
Well, that's it. Elle n'est pas en train de faire une balade dans le parc La Fontaine, là. C'est fucking dangereux.
Mais bon, cette théorie-là, ça explique mal la disposition étrange du corps et certains éléments manquants. T'sais, ça fit pas vraiment. Il y a plusieurs proches qui ont décrit un état mental instable dans les jours précédents. Dans ce scénario-là, Demetrius aurait pu se déshabiller volontairement. Un phénomène connu lors d'hypothermie, en fait, ou de détresse mentale, là, errer sans but puis succomber à l'épuisement ou à l'exposition. Mais le problème ici, c'est que même en tenant compte de ça, la scène reste difficile à concilier avec un décès entièrement naturel. Je veux dire, tu sais, c'est les deux ensemble, ça fonctionne pas tant, là. Rencontre avec une ou plusieurs personnes. Demetrius aurait pu croiser quelqu'un par hasard ou non après sa libération. Une altercation, une fuite ou une interaction qui tourne mal pourrait expliquer le déplacement du corps, la séparation de certains restes de son corps.
Mm-hmm.
Après ça, peut-être que c'est un homicide pas intentionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu l'opportunité, qui a vu une femme toute seule errer là, dans le noir, qui l'a pris, qui a voulu l'agresser puis que finalement, il l'a tué.
Right. Oh, mais il y a aussi le fait qu'elle se promenait dans le canyon. Les autoroutes sont très minces. Il n'y a pas de trottoir, comme tu as mentionné. Peut-être qu'elle a été frappée par un char. Le conducteur panique puis il cache le corps là-bas. Là.
Peut-être que Demetrius est morte toute seule, perdue dans la nuit. Peut-être que quelqu'un l'a croisée. Peut-être que la vérité se trouve aussi entre les deux.
Mm-hmm.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises ou pas prises ou mal prises, puis qu'elles ont laissé derrière elles plus de questions que de réponses.
Non, il y avait énormément de fuck-up dans tout ce qui a passé dans cette soirée-là.
L'histoire de Demetrius Richardson ne pourra jamais vraiment être classée, finalement. On saura jamais qu'est-ce qui est arrivé, puis c'était ça mon histoire d'aujourd'hui.
Oh, qu'est-ce que le fuck, Jennifer? C'est triste.
Ouais.
C'est triste.
Vraiment. Veux-tu savoir mes sources?
Frappe-moi donc! Mais avant, j'ai presque oublié, j'ai trouvé ça hilarant. Quelqu'un a mentionné dans la groupe, ils ont pris un c'est sûr qu'ils ont Patreon, parce qu'ils ont pris un screenshot de notre dernier épisode, puis ils ont demandé si l'écran, juste en haut de mon épaule ici, c'est croquette de merde, puis douche baguette.
Ah, oh, les crânes, oui.
Je trouve que c'est des noms hilarants pour nos chers crânes.
Ils ont maintenant des noms. Croquettes de mer, les douchebags de la semaine. C'est ça qu'on fait avec eux. Ils sont là avec nous autres.
Alors, abonnez-vous!
Abonnez-vous, gang, sur Patreon. Yeah. Il se passe plein d'affaires. Puis là, Colin, il faut rendre du full bon pour faire mettre des petites photos dans les vidéos. Puis tout ça, je vous l'ai dit, 2026, là, on s'améliore encore plus.
Think big, esti.
Ouais, think big, esti. Là, je vais dire
on veut nos 10 000. Suivez-nous sur Instagram.
Sur Instagram. On veut notre disco sur Instagram. On veut avoir l'air professionnel.
Yes. All right. Sur ça, frappe-moi donc avec tes sources, Jennifer.
Autostraddle.com, Wikipedia, gigwise.com, Neighborhood Scout, The Local, Malibu.com, Bailey Sarian, NBC Los Angeles, Reddit, Medium.com, LA Times, LAMag.com. Gang, on vous aime beaucoup. On met des photos sur notre Instagram maintenant. Allez voir ça si vous êtes curieux de voir de qui on parle. Et voilà. Love you guys. Je vous aime beaucoup. Merci d'être avec nous. 10 000 likes.
Je vous aime. Bye bye.
Bye.